Vous écoutez, on lit pour vous.
Un jeune sur deux vit de l'intimidation ou de la discrimination à l'école, selon leurs parents. Un texte de Daphné Dion-Vient, paru le 12 mars 2025 dans le Journal de Montréal. Il s'agit d'un constat rapporté par plus de 11 000 parents dans le cadre d'une vaste enquête québécoise. Plus d'un parent sur deux affirme que son enfant vit de l'intimidation ou de la discrimination à l'école, le plus souvent à cause de son apparence ou de ses comportements. Une proportion semblable estime par ailleurs que leur enfant montre des signes d'anxiété sociale. Il s'agit d'un autre constat tiré de la deuxième édition de l'enquête sur le bien-être des familles québécoises, qui a été réalisée au début février par le biais d'un questionnaire en ligne auxquels ont répondu plus de 11 000 parents sur une base volontaire. Ce coup de sonde a été supervisé par la docteure Mélissa Généreux, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke, en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec et d'autres partenaires. Lorsqu'on a demandé aux parents interrogés si leur enfant vit de l'intimidation ou de la discrimination à l'école, 59% répondent par l'affirmative pour le primaire et 51% pour le secondaire, estimant que leur enfant en est parfois ou souvent victime. Les élèves à besoins particuliers vivent davantage d'intimidation, selon leurs parents. Cette proportion grimpe même jusqu'à 71% au primaire parmi eux. C'est assez étonnant, c'est à suivre de près, a lancé Dr. Généreux lors d'une présentation en ligne des faits saillants de cette enquête récemment. Ça m'apparaît quand même assez élevé. Les motifs de rejet sont le plus souvent reliés à l'apparence physique ou au comportement, 24% au primaire et 21% au secondaire. De façon plus précise, 10% des enfants vivent de l'intimidation en lien avec leur poids ou leur taille. Parmi les parents immigrants, 20% d'entre eux indiquent que leur enfant vit de l'intimidation ou de la discrimination en raison de ses origines, de la couleur de sa peau ou de sa religion. Anxiété sociale. Par ailleurs, la majorité des enfants au primaire et au secondaire montrent des signes d'anxiété sociale, toujours selon leurs parents. Les plus fréquentes manifestations sont la peur de ne pas être aimé par les autres, 53%, et la nervosité de parler à de nouveaux amis, 46%. Au secondaire, les filles ont plus tendance que les garçons à afficher des signes d'anxiété sociale, alors que la peur de ne pas être aimée par les autres grimpe à 61% dans leur rang. « Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec les réseaux sociaux », lance Dr. Généreux, rappelant que la comparaison sociale en ligne contribue à une diminution de l'estime de soi, particulièrement chez les jeunes filles. De manière plus générale, les manifestations d'anxiété sociale pourraient être reliées à la tendance à se réfugier derrière un écran, qui peut affecter les aptitudes relationnelles, ajoute Dr. Généreux, qui est préoccupé par la situation. C'était « Un jeune sur deux vit de l'intimidation ou de la discrimination à l'école, selon leurs parents », un texte de Daphné Dion-Vient, paru le 12 mars 2025 dans le Journal de Montréal.
Ça change tout pour moi. Cette jeune maman, atteinte d'un cancer du cerveau, a encore de belles années devant elle grâce à un nouveau traitement. Un texte d'Hugo Duchesne, paru le 10 mars 2025 dans le Journal de Montréal. Une jeune mère de Terrebonne atteinte d'un cancer du cerveau incurable peut espérer vivre encore plusieurs années en santé grâce à un nouveau médicament tout en évitant les toxiques effets secondaires de la chimiothérapie. Citation. Ça change tout pour moi, pour mon avenir. Ça m'enlève un stress. Fin de citation, confie Cindy Robitaille, âgée de 31 ans et mère de deux jeunes enfants de 2 et 5 ans. Depuis cet automne, elle prend un nouveau médicament, le Voranigo, qui cible spécifiquement les cellules cancéreuses dans son cerveau. Il est donc plus précis que les traitements traditionnels de chimiothérapie et de radiothérapie, sans comporter de lourds effets secondaires. Citation. C'est une percée majeure, lance la neuro-oncologue du Centre universitaire de l'Université de Montréal, Sarah Lapointe. C'est le premier traitement depuis plus de 20 ans pour ce type de tumeur. Fin de citation. En pleine grossesse, Cindy Robitaille a découvert qu'elle avait une tumeur au cerveau en janvier 2022 en faisant une crise d'épilepsie alors qu'elle était enceinte de 5 mois. Elle avait un gliome de grade 2 présentant une mutation particulière. Citation. « Autant c'est rare, autant c'est grave, puisque c'est incurable et difficile à traiter. » Fin de citation, ajoute la docteure Lapointe, l'une des rares neuro-oncologues du pays. Ces tumeurs, qui touchent plus d'une cinquantaine de Québécois par année, sont plus fréquentes chez les jeunes adultes et malheureusement mortelles, poursuit-elle. Cindy Robitaille a attendu 3 mois après son accouchement pour passer sous le bistouri. Citation « Ils ont enlevé le plus gros, mais ils ne pourront jamais tout retirer, car les risques de séquelles sont trop grands. » Fin de citation, dit-elle. Elle a dû rester éveillée pendant les 8 heures de l'opération, justement pour éviter d'être paralysée ou de perdre certaines facultés. Elle devait par exemple lever le bras ou parler à certains moments pour guider les chirurgiens. La tumeur est comme une pelletée de sable dans l'herbe, illustre la docteure Lapointe. Il est possible d'en retirer une partie, mais il en restera toujours. De 11 à 28 mois. Elle suit une dizaine de patients avec le nouveau médicament, approuvé au Canada l'automne dernier. Un traitement très dispendieux, admet la médecin. Bien que récent, les études évoquent une progression au moins 2 fois plus lente du cancer, explique-t-elle. Plutôt que 11 mois sans le retour de la tumeur, les patients peuvent espérer aller chercher jusqu'à 28 mois. Et surtout, une plus grande qualité de vie, plaide-t-elle. Pour Cindy Robitaille, cela signifie des mois précieux, alors qu'elle peut même continuer sans problème à travailler en comptabilité. Citation « Je ne veux pas trop anticiper l'avenir, mais pour l'instant, ça va bien et je me concentre sur ma famille et mes enfants. » Fin de citation, se réjouit-elle. C'est quoi un gliome de grade 2? Les gliomes représentent le 2e type de cancer le plus fréquent chez les Canadiens de moins de 40 ans. Ils se propagent dans tout le cerveau et se mêlent au tissu normal, ce qui peut les rendre difficiles à enlever par chirurgie. Ils ont tendance à envahir lentement les régions voisines du cerveau, mais ils peuvent devenir plus agressifs. Les gliomes diffus avec mutation d'IDH sont incurables actuellement. La radiothérapie ou la chimiothérapie peuvent suivre la chirurgie lorsque la tumeur ne peut pas être enlevée complètement ou devenir le traitement principal si la chirurgie est impossible. C'était « Ça change tout pour moi. Cette jeune maman atteinte d'un cancer du cerveau a encore de belles années devant elle grâce à un nouveau traitement. » Un texte d'Hugo Duchesne, paru le 10 mars 2025 dans le Journal de Montréal.
Je savais qu'il fallait que je parte, mais je ne savais pas comment. Un texte de Sébastien Lacroix, paru le 11 mars 2025 dans le Nouvelliste. Le procès de Stéphanie Hamel, qui aurait agressé sexuellement une femme vivant avec une déficience intellectuelle avec son ex-conjoint Patrick Latraverse à Saint-Justin, se poursuit toute la semaine au palais de justice de Trois-Rivières. Ce dernier a toutefois coupé court aux procédures lundi matin en acceptant de plaider coupable. Il a en effet reconnu ne pas s'être assuré du consentement de la victime tout au long de la relation sexuelle à trois qui s'est produite derrière un cabanon. Il a ainsi écopé d'une peine d'emprisonnement de 15 mois à purger dans la collectivité, assortie d'une probation de 2 ans et d'une série de conditions à respecter, en plus d'être inscrit au Registre national des délinquants sexuels pour une période de 10 ans. Le juge Simon Ricard a en effet tenu compte du profil de l'individu qui vit avec une déficience intellectuelle légère et un trouble de personnalité limite pour se rendre à la suggestion commune des avocats. L'histoire en question remonte à août 2022, lorsque la victime prend contact via Messenger avec Stéphanie Hamel, qui était en couple avec Patrick Latraverse depuis plusieurs mois à ce moment-là. Dans une conversation écrite qui a été déposée en preuve, elles conviennent que la mère de Stéphanie Hamel irait chercher la victime dans une résidence qui est adaptée à sa condition pour passer la soirée à Saint-Justin où une activité sexuelle à trois était prévue. Une relation qui ne s'est toutefois pas déroulée comme la victime se l'était imaginée. Quand j'ai embarqué dans la voiture, je savais que ça allait mal virer, a témoigné celle dont il nous est interdit de publier tout renseignement permettant de l'identifier. Elle a en effet indiqué que le co-accusé avec qui elle était assise à l'arrière de la voiture avait entrepris de lui toucher les seins et l'entrejambe durant le transport et qu'elle l'avait repoussé à quelques reprises avant qu'il finisse par arrêter. Une fois à destination, la victime a indiqué que les deux co-accusés avaient des discussions assez intenses. « Je savais qu'il fallait que je parte, mais je ne savais pas comment », a ajouté celle qui se trouvait alors à plusieurs kilomètres à pied de son domicile. Les gestes à caractère sexuel se seraient ensuite produits en fin de soirée, une fois que la mère de Stéphanie Hamel, où le couple résidait, est allée se coucher. L'accusé l'aurait prise par le bras pour l'attirer à l'arrière du cabanon où la relation s'est produite. Stéphanie Hamel aurait notamment fait des pénétrations vaginales avec ses doigts à la victime. Patrick Latraverse a, quant à lui, admis avoir procédé à une pénétration vaginale non protégée avant de tenter une relation anale. C'est d'ailleurs à ce moment que la victime lui a demandé d'arrêter et s'est retirée pour laisser le couple finir la relation. Éprouvant un important malaise, celle qui vit avec une anxiété chronique a finalement eu l'idée d'appeler l'ambulance pour quitter les lieux et se rendre à l'hôpital où elle a fait une trousse médico-légale. C'est à son retour chez elle, constatant que tout ce qui s'était passé était pour elle inacceptable, qu'elle a décidé de porter plainte aux autorités. Le contre-interrogatoire interrompu. Dans le cadre de son contre-interrogatoire, la victime, qui vit avec une déficience intellectuelle et un trouble de la personnalité limite, a convenu qu'elle n'avait pas manifesté qu'elle ne consentait plus à la relation à trois avant de se rendre derrière le cabanon. Elle a également admis qu'il ne s'était pas échangé de paroles derrière le cabanon jusqu'à ce qu'elle formule son objection à la pénétration anale. Le contre-interrogatoire a toutefois été interrompu en après-midi puisque la couronne souhaitait que certaines déclarations de la victime ne soient pas admissibles en preuve en raison de son état mental. Certains passages de la conversation sur Messenger, déposés en preuve, ont d'ailleurs été caviardés par la poursuite. Selon ce qui a été formulé par la procureure devant le tribunal, ceci faisait référence à un éventuel trouble. Des fiançailles ont également été évoquées durant cet échange. Des débats entre les avocats ont finalement eu lieu à huis clos pendant le reste de la journée de lundi, avant que le juge Jacques Trudel reporte la cause à mardi. Le procès, qui est prévu pour durer 4 jours, doit se poursuivre tout au long de la semaine. C'était « Je savais qu'il fallait que je parte, mais je ne savais pas comment », un texte de Sébastien Lacroix, paru le 11 mars 2025 dans Le Nouvelliste.
Entre fracture et résilience, un texte de Nathalie Collard, paru le 9 mars 2025 dans La Presse. Ils ont amorcé leur passage à l'âge adulte en pleine pandémie. 5 ans plus tard, leur avenir reste plombé par la crise du logement, l'urgence climatique et les tensions grandissantes au sud de la frontière. La pandémie a-t-elle laissé des stigmates indélébiles? Arrive-t-il encore à se projeter dans l'avenir? Bref, comment vont les jeunes adultes 5 ans après le grand confinement? C'est en parlant avec ma fille de 25 ans que l'idée de ce dossier est née. Elle me disait à quel point elle et ses amis ressentaient de l'anxiété. Le copain évincé de son appartement, l'autre qui combat des problèmes de dépendance, une autre qui cherche un emploi. Entre le stress de réussir professionnellement et l'incapacité à imaginer une vie aussi prospère que celle de leurs parents, comment se loger ou acheter une maison dans un marché en folie, et pourquoi mettre des enfants au monde sur une planète qui ne tourne pas rond? les jeunes en arrachent. Un récent rapport de l'Institut national de la santé publique, INSPQ, le confirme tristement. Les idées suicidaires chez les plus jeunes sont en forte augmentation et la détresse est encore plus marquée chez les filles. Depuis la pandémie, les femmes âgées de 15 à 19 ans se distinguent quant à l'augmentation de la détresse et des troubles psychologiques, observe la docteure Mélissa Généreux, professeure à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke et médecin spécialiste en santé publique. Elles sont suivies de près par les 20 à 34 ans. La professeure Généreux est catégorique. Les jeunes sont les victimes psychologiques de la pandémie. La pandémie a été le catalyseur de problèmes déjà en place, insiste la spécialiste. Ils vivent aujourd'hui dans un contexte de polycrise, incluant les changements climatiques et l'élection de Trump. Une période cruciale. Les jeunes Québécois sont loin d'être les seuls à broyer du noir. Les données montrent que la santé mentale des jeunes s'est détériorée un peu partout dans le monde au cours des dernières années, un constat partagé par Véronique Dupéré, professeure titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. On peut parler d'une véritable crise de santé mentale, dit-elle. Véronique Dupéré cite la commission Lancet Psychiatry, qui indique que les troubles mentaux représentent 45 % des maladies chez les jeunes de 10 à 24 ans, un phénomène attribué aux réseaux sociaux, aux changements climatiques et à un accès limité aux soins. On a eu tendance à l'ignorer. La crise sanitaire a frappé les jeunes de plein fouet à un moment clé de leur développement. C'est ce que m'explique Julie Marcotte, professeure titulaire au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR. La transition à l'âge adulte se situe grosso modo entre 18 et 30 ans, mais la COVID-19 a prolongé la phase d'exploration et de rumination associée à cette transition, observe la chercheuse qui s'intéresse particulièrement à la construction de l'identité. La transition à l'âge adulte est une période de grand questionnement qui a été exacerbée par la pandémie, dit Julie Marcotte. Au début de l'âge adulte, il y a beaucoup de choses en mouvement, souligne pour sa part la professeure Véronique Dupéré. Pour apprendre à se connaître, il est vital de vivre des expériences au contact des autres. La pandémie a mis une pause à tout ça. Or, ce ne sont pas des expériences qui se reportent. Anxiété quand tu nous tiens. Personne ne sera surpris d'apprendre que les jeunes sont plus anxieux que jamais. C'est la génération anxieuse, lance la docteure Mélissa Généreux, qui fait référence au livre de Jonathan Haidt, The Anxious Generation, How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness, et dont la traduction française paraît ces jours-ci. C'est un phénomène qu'on observe depuis une quinzaine d'années, ajoute-elle. Cette anxiété marquée chez les jeunes adultes, les trois chercheuses que j'ai interviewées m'en ont parlé. Il y a une partie de cela qui appartient à la pandémie. Ils ont été isolés, il y avait de l'incertitude. Mais c'est aussi la façon dont on les a éduqués, note la professeure Julie Marcotte. Ce qu'on nomme le « gentle intensive parenting » les a rendus moins confiants en eux. Et comme tout le monde est stressé autour d'eux, ils n'ont pas d'appui ou d'assurance que les choses iront mieux. Cela dit, tout n'est pas négatif. Les professeurs Marcotte et Généreux estiment que les jeunes ont désormais des outils pour faire face à des événements traumatiques. Tout dépendra de la manière dont ils intégreront tout ça dans leur récit de vie, note Julie Marcotte. Comme les générations qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale ou la Grande Dépression, ils sauront donner un sens à ce qu'ils ont vécu. Cela fera partie de leur histoire de vie, ajoute-elle. Quand l'événement traumatique est bien cadré, de façon bienveillante, ça permet de comprendre des choses sur toi et forger qui tu es, croit pour sa part Mélissa Généreux. Tu peux tirer de beaux constats et dire « on s'en est tiré ». Mais la professeure Généreux reconnaît que ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Plusieurs facteurs expliquent qu'il y a des jeunes plus fragiles que d'autres. L'hyperprotection des dernières années a laissé des marques, croit cette experte en santé publique. Les enfants sont dans des bulles, ils n'expérimentent pas suffisamment le jeu libre. Leur réseau social n'est pas super bien formé et la culture de performance dans laquelle ils baignent est amplifiée par les réseaux sociaux. Tout ça mis ensemble forme une combinaison fâcheuse qui contribue à des conditions de vie difficiles pour certains jeunes. On a mis quelqu'un au monde. J'ai demandé aux trois expertes si on avait suffisamment donné la parole aux jeunes durant la pandémie. Leur réponse est catégorique : vraiment pas. La professeure Véronique Dupéré a supervisé un projet, en 2021, dans lequel les jeunes tournaient des vidéos pour raconter leur expérience de la pandémie. Ils parlaient beaucoup des changements à leurs habitudes de vie, se souvient-elle. Les jeunes étaient moins à risque d'être contaminés par le virus, mais ils ont été durement touchés, affirme pour sa part Mélissa Généreux de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Leurs besoins de socialisation et d'apprentissage ont été négligés. La gravité de la COVID-19 est liée au récit qu'en ont fait la santé publique, le gouvernement, les médias, croit quant à elle la professeure Julie Marcotte de l'UQTR. Quand les jeunes construisent un sens à ce qu'ils ont traversé, c'est teinté par ça. Si on était allé leur poser la question, on aurait autre chose que le récit dominant. Je ne veux pas nier la gravité clinique de la pandémie, mais les jeunes vivaient des craintes différentes de celles de leurs parents et auxquelles il fallait porter attention. C'était « Entre fracture et résilience », un texte de Nathalie Collard paru le 9 mars 2025 dans La Presse.
Le rattrapage scolaire, toujours nécessaire 5 ans après le début de la pandémie. Un texte de Camille Lacroix, paru le 10 mars 2025 dans Radio-Canada. À quoi ressemble le rattrapage scolaire des élèves 5 ans après le début de la pandémie? Incursion dans un atelier d'aide aux devoirs par l'entreprise de la zoothérapie, un nouveau service offert par De pas à pattes et coups de pouce scolaires à Rimouski. Dans les locaux de pas à pattes, un groupe de 6 jeunes interagissent avec les chiens pour apprendre les règles d'orthographe. En épelant correctement le mot « volant », Charlotte peut alors donner une croquette à un des chiens présents. L'activité en soi avec le partenaire canin devient le motivateur et le prétexte pour solliciter des aptitudes en lecture ou en écriture, développer des notions au niveau relationnel, développer des notions au niveau de la mémoire, des apprentissages, énumère la propriétaire de l'entreprise de pas à pattes, Alicia Gagnon-Briand, interrompue en entrevue par des jappements derrière elle. C'est elle qui a eu l'idée de créer un nouveau service d'aide à l'élève devant une hausse de la demande. Nous, notre présence est très accrue dans les écoles de la région. On a repéré certains besoins, certaines difficultés. Et je me disais, mon doux que les enfants ont besoin de motivation scolaire! Témoigne celle qui est également intervenante spécialisée en zoothérapie. Cette demande de la demande d'aide à l'élève est relevée par la fondatrice de Coup de pouce scolaire, Carole Houdet. Depuis 2020, elle comptabilise une hausse de 38 % du nombre d'élèves aux primaires qui ont recours à ce service dans Rimouski-Neigette. La hausse est de 50 % pour les élèves au secondaire. Carole Houdet accompagne les élèves chez De pas à pattes et assure le suivi des matières à apprendre auprès de chaque jeune. Elle est aux premières loges des besoins des élèves. Citation : Un jeune sur deux au secondaire utilise les services de coup de pouce scolaire au moins une fois pendant l'année depuis la pandémie. Fin de citation : Carole Houdet, fondatrice de Coup de pouce scolaire. Parfois, les parents n'ont pas les suivis en orthopédagogie comme ils le souhaiteraient, même si leur enfant a un plan d'intervention. Et parfois, les élèves n'ont pas assez de retard pour qu'ils soient mis sur la liste prioritaire. C'est pour ça que les parents m'appellent, précise-t-elle. Du personnel spécialisé à la rescousse des élèves. Le président de l'Association des orthopédagogues du Québec, Mathieu Labine-Daigneault, croit que si les parents ont davantage recours au secteur privé pour des services d'aide à l'élève, c'est principalement pour 2 raisons. La première est que les difficultés observées pendant la pandémie auprès de certains jeunes n'ont pas été réglées. Ça s'accumule, ça s'agrandit, ça continue d'être une problématique. Alors là, il y aurait une raison pour les parents d'aller consulter au privé. La deuxième hypothèse est que les parents sont plus conscientisés par rapport aux besoins de leur enfant et des manières d'aller chercher les outils nécessaires. Des études tendent par ailleurs à démontrer les conséquences de la pandémie sur l'apprentissage des jeunes, quoiqu'il ne s'agisse que d'un début du portrait. Par exemple, une étude publiée l'automne dernier révèle les résultats d'un test de lecture réalisé une première fois en 2019 et une seconde fois en 2021 auprès d'élèves en quatrième année du primaire. Une diminution des résultats de 8,4% a été observée, ainsi qu'une augmentation du taux d'échec de 10,8%. Mathieu Labine-Daigneau soutient que ce n'est pas seulement l'ajout d'orthopédagogues dans les écoles qui permettrait de rattraper le retard dans les apprentissages scolaires. C'est plutôt la gestion des ressources humaines. En raison du manque de personnel enseignant, et ça bouge beaucoup, et il y a des départs. Tous ces mouvements-là font qu'on utilise l'orthopédagogue, à titre d'exemple, pour aller enseigner dans la classe. Citation : Si on prend l'orthopédagogue pour l'envoyer en classe, elle n'est plus en train d'intervenir auprès des apprenants en difficulté. Fin de citation. Mathieu Labine-Daigneau, président de l'Association des orthopédagogues du Québec. On apprenait d'ailleurs lundi dernier que le nombre de démissions dans les différentes écoles des centres de services scolaires, CSS, du Bas-Saint-Laurent est en augmentation depuis 2019. À titre indicatif, au centre de services scolaires des Phares, le nombre de démissions a fait un bond de 130% entre 2019 et 2023. L'exposition aux écrans, une autre épine dans le pied de l'élève. Depuis le début de coup de pouce scolaire en 2011, Carole Houdet a remarqué un changement dans la façon d'apprendre des jeunes. Citation : Malheureusement, je me suis rendu compte qu'avec la pandémie, il y a beaucoup d'enfants qui ont été vraiment exposés très longtemps aux écrans et que ça nuit à la concentration des jeunes. Fin de citation. Citation : Et on constate que parfois même dans les écoles, ils regardent les écrans dans différentes manières et que ce n'est pas forcément documenté. Parfois, c'est juste pendant leur collation. Fin de citation, poursuit-elle. La Commission parlementaire spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes se penche d'ailleurs sur cette question. Elle devrait déposer son rapport avant le 30 mai prochain. C'était Le rattrapage scolaire, toujours nécessaire 5 ans après le début de la pandémie, un texte de Camille Lacroix, paru le 10 mars 2025 dans Radio-Canada.